Nous sommes le jeudi 11 juin, il est 21h et quelques toutes petites secondes, minutes sur Radio Canus 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Romain, ça a été la période du Summer Game Fest la semaine dernière, donc là.
Moi, je suis en gueule de bois.
Voilà, donc ta wishlist du démon a donc dû doubler de volume. Est-ce que l'impact a été bien reçu?
Ah mais oui, non, elle a triplé de volume, c'est n'importe quoi. Je te dis, clairement en gueule de bois.
Ouais. Bah écoute, en plus c'est bien parce que ce soir on a invité des gens, potentiellement ça va... Est-ce que ça va la rajouter? Bah non, ça fait 15 ans que tu l'as, je suis sûr sur ta wishlist, mais c'est comme ça.
Depuis l'année dernière, oui. Depuis l'Indie Game Land l'année dernière, je l'ai en wishlist ce jeu. N'allons pas trop vite en besoin.
N'allons pas trop vite, effectivement. La semaine dernière, il pleuvait, il faisait froid. Maintenant qu'on annonce des 33 degrés dès 6h du matin, elle revient. Bonsoir Bettina.
Salut.
Comment ça va?
Ça va, j'ai du temps pour jouer en ce moment. Du coup, bah ouais, ça va, c'est cool.
Est-ce que tu joues à des bons jeux?
Ah oui, oui, là je viens de commencer. Ah bah ça y est. Ouais.
C'était bien.
Et ben voilà.
Ça valait le coup.
Ok, donc le dernier Call of est très intéressant,
non,
merci.
On en parle à la fin de l'émission.
Bon bah, je perds mes moyens, je sais plus le nom du jeu.
Mais c'est normal parce qu'elle est en face de personnes qui lui font totalement perdre ses moyens, parce que ce soir nous recevons Théo, Gaëtan et Emma de Rebelle Pixel. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Salut tout le monde.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir, vous allez nous parler, entre autres, du studio Rebelle Pixel et du jeu Stardream, dont on a eu plusieurs versions, qu'on a suivi. On a eu le privilège de le suivre dans plusieurs étapes de son évolution. Et on va parler donc de comment il est né et puis du futur de ce jeu. Mais auparavant, si on parlait un peu des gens qui font des jeux vidéo à Lyon et sur ses alentours, Bettina, je te laisse la main.
Merci, et cette fois-ci, je ne vais pas oublier les noms des jeux. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Crepe Master, qui est sorti il y a tout juste un mois. C'est le premier jeu de Hallucination Studio. C'est un studio composé d'anciens et d'anciennes salariés de l'antenne lyonnaise Albion, qui créait des jeux en VR, qui a fermé. L'antenne lyonnaise seulement, pas Albion. Et donc voilà, ils peuvent s'appuyer sur une équipe qui a déjà travaillé ensemble sur la production de jeux en réalité virtuelle. Donc tout naturellement, Hallucination Studio crée des jeux en réalité virtuelle. Et c'est donc cette petite équipe de 10 personnes qui vient de sortir Crepe Master sur Meta. C'est un jeu dans lequel on incarne une déesse des crêpes qui doit protéger la Terre d'une invasion extraterrestre. Armée de notre poêle magique, on écrase et on assomme et on envoie valser nos ennemis. Mais en tant que divinité, on a aussi des pouvoirs. Et donc il va falloir prendre littéralement des poses de Magical Girl et faire des gestes avec nos mains pour déclencher des puissants sorts. C'est une aventure drôle et sucrée qui coûte 8,99€ sur le Metastore.
Est-ce qu'on a un bonus si on a un drapeau breton?
Non, parce que de toute façon, ils sont lyonnais, du coup...
Mais des crêpes, quoi.
Bah ouais, je sais, mais... Ouais, je sais pas.
Est-ce qu'il est sponsoré par Krampus, ton jeu?
Krampus... Attends, j'ai pas la ref.
Ah, alors, bon, on n'a pas le temps.
Okay.
On n'a pas le temps, mais si tu veux faire des vraies crêpes bretonnes...
Ah, alors si, c'est la marque... Oui, des crêpières...
Voilà, la grande marque de crêpières, justement, sans rebord, etc.
Je vois très bien.
Recommander, hein, c'est des amis qui font ça, donc...
Ah,
vous pouvez y aller...
Trop bien.
Voilà. C'est sans risque, c'est très bien. Et voilà, un petit coucou à Nicolas et à toute l'équipe de Alsace Studio.
Mais oui, ah non, mais je croyais que tu parlais de Krampus, moi j'ai rien compris.
Ah, c'était pas à moi, Krampus,
vraiment... ah, oui,
effectivement.
Non, mais grave.
Depuis 1867, dans ma famille.
Non, on
alors,
parle.
On fait des crêpes avec eux.
On mélange. De Hallucination.
On cueille le sarrasin nous-mêmes.
Théo qui nous fait son coming out breton. Et là, son ce soir.
Ensuite, le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est Crushed in Time du studio Villeurbanne, Dromi et Pixel, qui est sorti hier, le 10 juin. C'est le deuxième jeu du studio, le premier étant There is no Game, Wrong Dimension.
Jouer à There is no Game, incroyable, incroyable expérience, parce que c'est pas un jeu.
Oui, oui. Enfin, si, c'est un jeu, mais bon, bref.
Mais non, c'est dans le nom.
No Game.
C'est dans le nom. C'est dans le nom.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai,
un effort.
Non, mais j'ai du mal avec l'humour, je crois. There is No Game, qui était sorti en 2020, qui avait eu un joli succès, hein, plus d'un million d'exemplaires vendus, si je dis pas de conneries, de ce que j'ai lu sur Internet. Donc Crushed in Time, c'est un spin-off de There is No Game, dans lequel on retrouve deux de ses personnages, Sherlock Holmes et le Dr Watson. Et donc, à l'instar du précédent jeu, Crushed in Time, c'est un point-and-click humoristique où on retrouve la même ambiance burlesque et surtout, surtout, une narration très très méta. Donc le pitch, c'est: au moment même où le nouveau jeu vidéo Sherlock Holmes et Dr Watson sortait sur le marché, l'un de ses personnages a mystérieusement disparu. Donc voilà, on comprend bien que à nouveau on va jouer avec des personnages, mais on joue pas les personnages en fait. On joue avec les personnages qui semblent avoir leur propre libre arbitre. C'est terrible, et qui se trouve littéralement dans un jeu vidéo avec lequel on interagit et dont on peut casser les décors et parfois casser les règles pour résoudre des puzzles. Enfin, c'est assez difficile à expliquer avec des mots, mais c'est très 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 drôle. Et il coûte 24,99€ sur Steam, mais actuellement en promo jusqu'au 24 juin.
Et allez aussi l'acheter parce que c'est vraiment excellent.
Oui.
Voilà, et toute l'équipe de Dromi et Pixel qui font un travail formidable, qui font aussi des jeux d'une très bonne manière. Et j'embrasse aussi Sophie et toute l'équipe. Et merci pour l'aide qu'ils nous ont aussi fournie.
Ah, trop bien.
Ouais, ils ont aussi carrément aidé Robal Pixel et moi. Donc voilà, excellent jeu. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est excellent.
Trop cool.
Cool. Je veux juste en placer une pour Indie Clem qui nous a envoyé cette semaine un message trop pipou.
Ça fait
très plaisir pour rappeler notamment que son jeu qu'il fait avec Susan, qui s'appelle Another Door, a été promu au Future Game Show pendant le Summer Game Fest, donc voilà. Que c'est marrant parce que quand on l'avait reçu, il nous disait justement que ils étaient en discussion avec des studios, avec des éditeurs. On sait maintenant l'éditeur, c'est No More Robots, qui sont pour le coup des éditeurs de qualité. Et la démo est disponible. Téléchargez la démo, jouez-y voilà. On souhaite le meilleur et puis comptez sur nous dès que le jeu sortira. Et on les réinvitera pour savoir ce qu'il en est. Et puis avec leur million de sellers, ça sera trop bien, quoi.
Ouais. Bon, bah du coup, vous avez déjà pu entendre nos invités discuter, mais enfin,
oui.
Intervenir. Mais
oui, effectivement, on va être obligé de leur poser des questions parce qu'apparemment, c'est le principe de ce qu'on appelle une interview. Théo, Gaëtan, Emma, première question.
Alors attends, mais parce que du coup, ça t'a coupé l'herbe sous le pied. Tu ne les as pas introduits.
Non.
Ah oui, d'accord.
Non. J'y allais.
Ok.
Est-ce que vous pouvez vous taire, madame?
Cette émission est très bien préparée.
Voilà. Ma première question pour vous trois. Quels sont vos rôles au sein de Rebel Pixel?
À vous de choisir dans quel ordre.
Tu vas commencer, Gaëtan? Vas-y, je vais commencer.
Bonsoir, Gaëtan.
Bonsoir. Je tiens juste à dire en avance que Théo, c'est le rôle du mec qui connaît absolument tout le monde dans le milieu du jeu vidéo à partir d'aujourd'hui. Vous avez pu voir qu'il répondait absolument à tous les commentaires de Bettina. Donc je m'excuse, moi je me présente, c'est Gaëtan Bercé et je suis le directeur artistique, ce qui ne veut pas dire énormément de choses parce qu'on est une équipe de deux artistes. Mais je suis aussi le 3D artiste et le tech art parce qu'on fait notre propre moteur de rendu sur Stardream et du coup c'est moi qui m'en occupe. Un vrai plaisir. Voilà, je passe la parole à Théo.
Moi ici à la voix de Théo et donc je suis le game director à Rebel Pixel, donc c'est principalement m'occuper toute la cohérence du jeu, du game design et puis aussi m'occuper des équipes pour que voilà, on ait tous dans la bonne direction, une équipe, une direction qu'on choisit ensemble. Et je passe la main à Emma.
Eh bien bonjour, moi c'est Emma et je suis la programmeuse. Alors c'est vrai que je pourrais dire la lead programmeuse, mais pareil, comme il n'y a que moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en fait, dans mon rôle, c'est le côté lead tech, où c'est moi qui suis responsable des aspects purement techniques du projet, qui supervise les et qui peut prendre des décisions au niveau de ce qui est vraiment ce qui est lié à la programmation, à la logique des systèmes et tout. Parce qu'en fait, Théo Gaëtan aussi, ça leur arrive de programmer des petits bouts par-ci par-là, ça arrive à d'autres personnes aussi qui sont intervenues. C'est moi qui suis au-dessus des décisions à prendre sur la logique de tout ça.
Voilà. Le chef d'orchestre, parce que tu n'es pas la seule à toucher au code de Stardream, et heureusement que tu es là pour nous assurer que tout aille bien.
Quand il y a un bug, quand il y a un crash, quand ça prend feu, c'est moi qu'on appelle le secours.
Si le jeu fonctionne, c'est grâce à Emma, on va se le dire.
Et du coup, là aujourd'hui vous êtes trois. Le Rebel Pixel, est-ce que c'est vous trois?
Alors, Rebel Pixel, c'est une core team de donc, 4 personnes qui sont vraiment là, on va dire, un peu tout le temps. Mais en réalité, c'est une équipe qui est très étendue. C'est compliqué.
Comme Sandfall?
Non. On va non. dire que... J'aime bien dire que globalement, c'est une équipe de 8 personnes. On va dire qu'il y a 8 personnes, un peu 8 mains, qui ont vraiment... pris beaucoup de temps et qui ont une vraie place dans l'équipe, mais c'est aussi beaucoup de personnes qui sont venues en renfort, beaucoup de personnes qui sont venues en freelance, et beaucoup de, même l'équipe des voix chez Adult Studio, c'est déjà 10 personnes qui ont bossé dessus. Donc en fait, si on prend la totalité des gens, on le voit dans les crédits, en fait, Starim, c'est un jeu qui a été fait par au moins une trentaine de personnes qui ont mis la main dessus.
Okay. Donc voilà. La première fois que j'ai entendu parler de Stardream, on me l'a présenté comme un projet étudiant. Donc ma question, qu'est-ce qui est né en premier?
Hein? Ah bon?
Ah, sa première fois que j'en ai entendu parler, c'était...
Qui chose... a dit ça?
Je dénonce personne. Hein, je dénonce personne. Qu'est-ce qui a été créé en premier, Stardream ou Rebel Pixel?
Stardream.
Ouais.
D'accord, l'idée, comment... le prototype, ouais. tout ça, et ensuite vous vous êtes dit on va créer une structure pour...
Bah, est-ce que vous voulez un peu l'histoire de comment Stardream s'est fait?
En gros,
l'idée c'est que Stardream s'est fait un peu de la mauvaise manière, je dirais, d'un côté du jeu vidéo, dans le sens où ça a été d'abord venu d'une idée graphique qui venait de moi. C'est que moi je suis assez fan, et je suis content de pouvoir le placer très tôt. Je suis très très fan de Syd Mead, S-Y-D-M-E-A-D, qui est juste le papa de la SF. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Syd Mead, parce qu'il n'est pas très connu bizarrement, c'est celui qui est notamment la personne qui a fait les arts de Tron, Blade Runner, Tomorrowland, un peu de Star Trek, un peu Star Wars.
Il est cité dans le jeu d'ailleurs.
Il est bien évidemment cité dans le jeu parce que c'est quelqu'un qui... m'a vraiment donné l'amour de ce monde Space Age. Donc le Space Age, c'est quoi? C'est la vision du futur dans l'Amérique des années 60. Donc il faut voir vraiment ça, l'Amérique d'après-guerre, l'Amérique des années 60. C'est vraiment une visualisation du futur qui est très tournée sur la consommation, qui est très tournée sur le rêve américain, et qui est très utopiste, et qui vient avec beaucoup d'autres mouvements.
Pensez Tomorrowland, par exemple,
exactement.
De Disney, enfin, le Disney.
Exactement.
Qui a créé Tomorrowland dans ses... le projet Epcot, voilà.
Projet Epcot, qui est énormément Space Age. Donc c'est vraiment cette idée de... C'était à l'époque où les gens allaient... l'Amérique a posé son premier pas sur l'espace.
Oui, peut-être, sinon, en dessin animé populaire, les Jetsons, ce genre de choses. Voilà.
Donc tout ce mouvement-là, qui, moi, m'a vraiment... passionné, on va dire, d'un point de vue artistique, mais il y a aussi énormément de choses qui sont à raconter, qui sont hors de l'artistique, parce que ça s'inscrit dans une période qui est très... c'est la période d'après-guerre, une période où il y avait beaucoup aussi de personnes qui étaient maltraitées, on va dire, tu vois, les femmes et tout, c'était 10 ans après la ségrégation, enfin bref, une époque qui finalement n'était pas si utopiste que ça. Donc il y avait beaucoup de choses à raconter, et c'est en voyant un peu mon art et mon envie de recréer les tableaux de Syd Mead en 3D, que Théo est venu avec sa fibre jeu vidéo et qui s'est dit mais l'univers est intéressant, il y a quelque chose à faire dedans. Donc,
ouais, bah globalement c'est ça, hein, franchement, t'es arrivé avec ta recréation. Bah, au début c'était un peu un challenge technique de comment on arrive à recréer ce style assez unique en 3D, ce qui est déjà un challenge en soi. Et au-delà, une fois que ça s'était dépassé, en fait, voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire, ça a été tout de suite une grande source d'inspiration, de dire mais qu'est-ce qui se passe si on fait un jeu vidéo dans cet univers?
Il y avait déjà un choix de moteur, un choix technique à ce moment-là, ou c'était vraiment juste pour l'exercice?
Ouais, heureusement, on m'a suivi sur le moteur sur lequel j'étais en train de faire déjà mes prototypes, en fait. Qui étaient des prototypes plutôt basés sur... Enfin, c'était censé être des créations pour des musées ou ce genre de trucs, se balader dans des tableaux de Sigmund. Moi, j'avais vraiment pas l'idée de faire un jeu vidéo à la base, parce que c'est pas vraiment, enfin, c'est mon métier, mais c'est pas vers là où je vais. Mais c'est vraiment Théo qui a décidé d'en faire une expérience vidéoludique.
Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à base, du coup, moi, j'ai beaucoup d'XP sur Unity, donc qui est un moteur de jeu, et Gaëtan a travaillé sur Unreal Engine. Et du coup, quand on a voulu commencer à faire le jeu, je suis bien embêté, parce que du coup, on n'est pas sur le même moteur. Et on a fait des petites itérations sur Unity pour essayer de refaire le rendu. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus facile si moi, je me formais en fait, à utiliser Unreal, que si on passait tout le pipeline qui était déjà prêt. Graphiquement, donc le choix technique du moteur il s'est fait comme ça, et du coup c'est vrai qu'en fait la tout début de la création de Stardium, en fait, ça a été Gaëtan qui travaille sur le moteur de rendu pendant que moi je développe un jeu en solo pour me former, parce qu'il y a bien un moment en fait nouveau moteur ça s'attend pas comme ça, donc j'ai eu 5-6 mois où j'ai fait un petit jeu que j'ai pas sorti, mais qui était un jeu pour apprendre, et ensuite là on était prêt et on a vraiment commencé à développer Stardium pour de vrai.
Quel beau gosse.
Emma, comment t'as rejoint l'équipe ?
Bah, c'est arrivé plus tard, c'est-à-dire que à ce moment-là, l'équipe était en train de travailler sur, dans la pré-production ou un petit peu avant de la phase qu'on délimite comme étant la pré-production, à travailler sur un prototype, en fait. Et il y a eu un besoin d'avoir quelqu'un qui puisse venir faire du code. Et puis, comme on se connaissait déjà. Puisqu'on s'est rencontrés en manif, ça, je pense qu'on va en parler à un moment donné dans l'histoire.
Cette émission n'est pas politique. Hein.
Oh là là, le jeu vidéo, c'est
apolitique. Ne regarde pas les murs du studio.
Bah du coup, on s'est rencontrés pour en discuter, puis ça a matché. Et puis en fait, j'ai rejoint le projet, je crois, en décembre 2024.
C'est ça, exactement. Ouais.
Voilà.
Donc ça faisait, je pense, 6 mois. Enfin, c'est même plus longtemps, en gros, on commençait en début 2024, on a dû monter la boîte pour recevoir les premières subventions. En fait, c'est pas vraiment Rebel Pixel à la base, ça a été monté très technique, de juste, à un moment, il fallait recevoir des sous, il fallait verser en fait, de l'argent, et juste, il fallait une structure. Donc ça a vraiment été monté pour la structure. Mm-hmm. Et ensuite, comme Thiéma, en fait, ça avançait, mais on commençait à être limité par le code et le fait que ça commençait à être un peu une salade de code qui marchait à moitié, et Emma est arrivée avec une grande expertise, et là ça a permis de lancer vraiment le projet sur des bonnes rails.
Du coup, effectivement, je suis arrivé bien après le moment jeunesse du projet, et je me rappelle le premier moment où j'ai entendu parler du projet, c'était on s'était croisé à une Young Life Dev et tu fais montrer le trailer.
Ah oui, parce que on avait déjà un teaser à l'époque.
Ouais. Et du coup,
je suis curieuse de.
Tu m'avais pitché le projet, 10 mois avant que je rejoigne, un truc comme ça, quoi.
Ouais. Mais c'est parce que, ouais.
En fait, peut-être pas 10 mois, mais plus de 6 mois en tout cas.
C'est vrai. Donc à ce moment-là, t'avais déjà les bases du scénario, de l'ambiance, etc.
Alors il faut.
Non.
Ouais.
Mais c'est intéressant justement pour savoir comment tu crées les trailers sans forcément avoir la. Oui. La trame complète ou quoi que ce soit, c'est ça qui est intéressant. Comment tu t'arrives à créer de l'engagement alors que tu sais que t'as pas fini le jeu, donc t'as pas toute la trame dans la tête, quoi.
Bah, le teaser, il était important dans un sens où nous, on pouvait pas vendre Stardream tel qu'on l'imaginait, parce qu'en fait, c'est un travail qui est colossal et qui demande énormément de personnes qui sont qualifiées dans leur métier respectif pour le créer. Et du coup, nous, ce qu'on essayait de faire, c'est, parce qu'on allait au Game Camp, de créer une vidéo qui nous permettait déjà de juste montrer l'idée qu'on avait du jeu final, mais sans que rien existe. Donc c'était vraiment une fake vidéo, quoi. Et à partir du moment...
Mais c'était pour montrer les intentions seulement, quoi.
Exactement, ouais. C'était pour montrer les intentions. D'ailleurs, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais...
On appelle ça Watch Dogs.
Et d'ailleurs, personne nous ait confiance pour arriver à aller jusqu'à nos... Jusqu'à ce qu'on disait qu'on allait pouvoir faire, quoi. Enfin, bon, c'est normal, on est personne, les gens nous connaissent pas, c'est un projet très ambitieux. Et au moment où Emma a intégré l'équipe, c'est à peu près le moment où on est passé d'un prototype qui était très horrible, mais parce qu'on était que très peu dessus, à se dire, ok, là, il faut vraiment prendre des personnes qui sont des pros dans leurs sujets respectifs et faire une vraie démo. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a embauché des gens et qu'on a vraiment, on s'est posé la question de faire une vraie histoire, mettre en place des vrais systèmes. Et c'est dans cette foulée qu'est arrivée Emma.
J'ai une petite question du coup, parce qu'on a effectivement entendu parler de l'artistique, on a entendu parler du game design, on a entendu parler de la programmation. Au niveau du scénario, qui c'est qui s'y est collé? Parce que c'est un jeu, on va, enfin, on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est un jeu narratif. Et du coup, avec
on l'a pas dit parce qu'on
n'a rien dit.
Un scénariste de génie, je pense qu'on va dire son nom dans quelques secondes.
Ouais, bah, du coup, c'est que pour retrouver du coup Stardew, donc c'est un jeu d'aventure narrative, c'est un jeu de science-fiction Space Age.
J'ai envie de dire rétrofuturisme, c'est l'impression, enfin, c'est le mot qui m'est venu quand j'ai joué, quand j'ai vu l'univers.
Exactement. Et du coup, l'action du jeu prend place dans une station spatiale rétrofuturiste, justement, où on joue Darlene, qui est une chauffeuse de taxi. Et tout le monde, enfin, tout va pour le mieux dans son condition parfait, jusqu'au jour où il y a un de ses clients qui a intercepté un message qui vient de l'extérieur de la station. Ce qui n'est pas censé être possible. Et du coup, il va lui demander un peu de l'aider à enquêter sur ce drôle de message. Et ça va être le début de découvertes qui vont révéler que finalement ce monde cache un sombre secret. Et les leaders ont une bonne raison de cacher ça à la population. Et voilà. Donc vous allez être les acteurs de cette découverte et vos choix vont impacter la suite de l'histoire et les différentes fins du jeu.
Voilà. Ok.
Et alors, qui écrit tout coup, ça?
Alors,
on peut le dire trois fois par trois personnes différentes s'il faut, mais Léonard Berthos. Bien.
D'accord.
Léonard, qui a été vraiment Léonard Berthos.
Extraordinaire.
En fait, on a bossé avec pas mal de gens à la narration avant de trouver Léonard. Et ça a été compliqué de trouver la bonne personne qui comprenait la vision, qui avait les mêmes références que nous, qui avait la même sensibilité, aussi les valeurs, parce que c'est quand même une histoire qui porte beaucoup de sujets qui nous sont chers. Et c'est pour ça que pendant un moment, on n'était pas encore satisfait. Donc on essaie avec plusieurs personnes. Et Léonard, en fait, il est arrivé et en une semaine, il a posé un truc. On a dit waouh, ok, ça c'est vraiment bien. Et à partir de là, on a enchaîné. Et du coup, maintenant, c'est lui qui est le game writer. Du coup, c'est comme ça qu'on dit. C'est lui qui s'occupe de toute la partie écrire l'histoire, écrire les embranchements, écrire les dialogues.
Ok.
Tu parlais donc de références communes, de valeurs. Est-ce que tu peux un peu, est-ce que vous pouvez même expliciter ça si vous avez des références justement? Vous avez dit que notamment sur avec d'autres personnes, ça avait peut-être moins accroché. C'était quoi ces références-là et ces valeurs qui semblent très importantes pour Star Dream
et que vous cherchiez du coup à amener dans le jeu?
Je réponds. Je pense que de toute façon, ça va être des réponses un peu personnelles de tous et toutes. Je vais pas vraiment prendre la parole de la boîte pour ça, mais moi je vais commencer personnellement plus sur les sujets qui me sont cœur, et puis ensuite les décisions des personnes, je pense que c'est pas très important pour moi, mais les sujets qui me sont cœur, j'en avais déjà un peu commencé à parler. C'était moi au début d'être fan, mais quand je dis fan, c'est je vis sur cette direction artistique depuis des années, que ce soit même mes vêtements et tout, donc bref, c'est un problème d'une autre nature. Mais il y avait la question de se dire, le fait de s'approprier des vêtements et une culture d'une autre époque, c'est très bien, mais ça peut venir avec approprier aussi la manière dont les gens y pensaient à cette époque, ou pas les dogmes, c'est pas du tout la même chose, ou la manière dont la société était organisée à l'époque. Et du coup, ça a été un peu compliqué pour moi de à la fois aimer l'Amérique des années 50-60 sans pour autant me refuser à critiquer toutes les choses qui n'allaient pas à cette époque-là. Moi, j'ai eu beaucoup de chance en tant qu'artiste, c'est que j'ai pu aller très fort dans l'utopie et très fort dans la propagande, en fait, même en y allant à fond, tout en sachant derrière, en fait, que j'étais sûr et certain qu'elle allait pouvoir être critiquée, cette propagande et l'utopie que j'allais mettre en place graphiquement parlant. Et du coup, c'était important pour moi aussi que dans les autres personnes du projet, y ait cette envie, en fait, d'un côté, trouver que le monde est, oui, en effet, joli et que, graphiquement parlant, il y a beaucoup de choses dans les utopies qui fonctionnent. Mais derrière, de vouloir dénicher les problèmes et mettre sur un piédestal, on va dire, un peu toutes les choses qu'on peut critiquer sur ces époques-là. Pour que ce soit, pour pas qu'on devienne une propagande par nous-mêmes, en fait, sur certains modes de pensée de l'époque, quoi.
Un peu éviter l'effet que.
C'était mieux avant.
Oui, déjà.
C'est ça, hein.
L'effet, c'était mieux avant, et puis l'effet que peut avoir l'univers de Fallout aujourd'hui.
Ouais.
Où, en fait, qui a commencé comme justement une parodie qui voulait critiquer ce côté très propagande, mm-hmm. et qui maintenant est devenu entre guillemets la propagande elle-même
qui a repris la chose. Ouais, Donc c'est pour ça que moi, personnellement, en fait, j'avais vraiment pas envie, graphiquement parlant, de montrer des gens qui souffrent et de montrer des... En fait, je trouve ça très facile de dire, oh là là, ce qu'on vous montre est mal, parce qu'il y a des gens qui sont en train de saigner en face de toi. Enfin, je trouve ça très facile d'un point de vue moral, alors que nous, on vit une vie qui est très calme, où on voit pas des gens souffrir en face de nous, et pourtant, on est dans des systèmes qui sont oppressifs, etc. Mmh. Et du coup, c'était important pour moi de pouvoir dire, ok... On peut se rendre compte des problèmes qu'il y a dans une société, même si elle t'est présentée de manière très utopique. Mais derrière, il faut s'assurer que l'histoire, elle puisse critiquer ça, que le game design puisse mettre ça en place, que le monde, il y ait des choses à critiquer dedans, et que, que ça ne peut pas être facilement repris par juste des gens qui...
Qui, comme tu disais, disent ouais, « c'était mieux avant ».
Qui disent « c'était mieux avant » ou quoi que ce soit. Quoi. Ouais, voilà.
Sans critique, sans regard. Sans
recul. Exactement.
Ouais. Moi, de mon côté, moi, je suis un très grand fan de science-fiction. Et moi, ce que j'aime dans la science-fiction, c'est aussi le côté science. Donc, comment on le ramène ça au réel, comment on crée des histoires qui semblent réalistes, plausibles, dans lesquelles, en fait, on a des vrais éléments de référence. Et souvent, moi, j'avais des trucs assez précis. Bon, le projet Manhattan, ça, c'est quelque chose qui m'en parle beaucoup parce qu'on est vraiment sur, en fait, un État qui crée une ville cachée. Mais c'est une vraie... Enfin, il faut rendre compte qu'il y avait une école, il y avait des médecins, enfin, genre, c'était vraiment une petite organisation autogérée, mais dans laquelle on devait faire fonctionner ce monde parce qu'à côté ils sont en train de créer juste la bombe atomique, quoi. Et c'est super intéressant. Et ben voilà, Léonard, il faisait partie des gens qui avaient ces références-là, et c'était pas juste qu'ils connaissaient d'eux, c'est qu'ils l'avaient étudié, ils connaissaient donc déjà, il y avait une vraie une culture de tout, moi, les choses qui scientifiquement m'intéressaient, que je voulais qu'on référence dans le jeu. Et ensuite, je voulais vraiment raconter une histoire où c'est pas un héros ou une héroïne qui va être voilà, celle qui va sauver le monde, mais c'est vraiment un projet collectif. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, Darlene, c'est juste une chauffeuse de taxi, c'est une des habitantes de Stardream, et elle va se trouver emmêlée là-dedans, et c'est ses choix, ses relations avec les gens qui vont permettre de mener à la fin... au changement de Stardream, mais c'est jamais elle toute seule, c'est toujours le collectif, le groupe, c'est eux hein, qui sont les héros, en fait, c'est nous, et ça, je pense que c'est aussi un truc qu'il a tout de suite compris très bien. Et enfin, bah, c'est le ton, c'est la manière d'écrire, la manière de dire, en fait, là, je vais créer un nœud narratif, mais dès qu'on résout un nœud, on en crée un autre, et du coup, c'est quand même toujours intéressant, il n'y a jamais ce moment où juste on se lasse, et je pense que ça se ressent dans la démo et les retours. Il a eu une écriture qui sait bien gérer le rythme, dire beaucoup de choses avec peu de mots. Voilà, ça c'est aussi une capacité qu'on a retrouvée et qui était importante pour moi, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et en même temps, faut pas que ça soit obvious, c'est un peu subtil. Il a cette écriture.
Mais effectivement, tu le sens un peu dans la démo de ce que tu dis, en fait, sur le fait qu'elle soit elle fasse partie d'un collectif. Et au début, en fait, elle a presque pas envie, en fait. Enfin,
exactement.
Elle est j'ai rien demandé. Enfin, j'ai pas demandé.
Oui, ça tombe sur elle, voilà. Comme ça pourrait tomber sur n'importe qui d'autre de la station.
Elle est quand même amie avec certaines personnes. Donc,
oui, certes. Mais je veux dire,
les mains dedans, mais
c'est pas elle en particulier, quoi.
Elle n'était pas du tout destinée à ça, en fait. Et du coup, Darlene, c'est vraiment une. C'est nous, tu vois, alors vraiment quelqu'un, ça peut être n'importe qui, et je voulais pas qu'elle réussisse toute seule. C'est pas elle qui d'un coup se met à faire des folies, mais en fait c'est ses choix avec ses relations, et c'est ça qui va faire évoluer un peu la trame.
Moi j'avais pas grand chose à rajouter au niveau des intentions là-dessus, je suis tout à fait aligné avec tout ce qui a été dit. Par contre, on a envoyé beaucoup de fleurs à Léonard, c'est super, je veux pas qu'on finisse l'émission sans avoir envoyé aussi des fleurs à Loline et à Vincent. Loline qui est la concept artiste, et Vincent qui est le compositeur, qui ont juste fait un travail de fou au niveau artistique. Enfin voilà, vas-y, rebondis dessus.
Non, bien sûr, mais j'espérais que ce soit une autre conversation de fond sur d'autres choses. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. C'est très stressant d'être à la radio. Hein. Je sais pas si les gens qui nous écoutent s'en rendent compte, mais là on est devant des énormes micros qui font la taille de ma tête. Non, c'est fou. Ouais. Non, mais l'équipe artistique est juste dingue. Et je suis juste, en fait, je suis content d'avoir eu le rôle de mettre en place un univers qui fonctionne et derrière de laisser des libertés à des artistes lyonnais, en fait, qui font juste un travail extraordinaire. Moi, mon but derrière, c'est juste de m'assurer qu'on reste dans cette espèce de, même si je le critiquais avant, mais de « c'était mieux avant », cette espèce de nostalgie un peu d'une époque que moi-même, je n'ai pas connue. C'est bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette nostalgie.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent à l'échelle de l'humanité, dans le sens où des générations qui n'ont pas forcément connu une certaine époque vont l'idéaliser. Et, ouais.
Ça s'appelle l'anémoïa, je crois.
L'anémoïa,
la nostalgie d'une période que t'as pas connue.
Ok.
Et en tout cas, c'est vrai que Loline Bongiro, qui est l'artiste qui fait absolument toute la 2D du jeu, donc les posters, les arbres aussi.
Les
concept art des personnages qui est extraordinaire. Et Vincent Régolo qui aussi fait la musique. Et la musique, je l'écoute moi tous les jours. Tous les jours en allant chercher mon pain.
T'es pas encore lassé?
Non, je suis pas encore lassé. Je la trouve extraordinaire. Et vraiment, non, c'est des gens extraordinaires. Mais il y a tellement de personnes qu'il faudrait nommer.
Oui. Mais c'est vrai que ce qui frappe tout de suite avec Stardream. C'est vraiment la DA, donc le visuel, la musique, t'en as parlé aussi du rendu 3D, etc. Ça, c'est vraiment ce qui frappe dans un premier temps. Après, évidemment, on va commencer à en apprendre un petit peu plus sur l'histoire, etc. Mais c'est vrai que ça marque tout de suite, quoi. Vous avez fait un super taf là-dessus.
De toute façon, l'idée, vraiment, le rêve un peu, la fantaisie, c'est comme ça qu'on dit, la promesse qu'on fait à nos joueurs et notre joueuse, c'est vraiment de dire on va vous immerger dans ce monde et vous allez vivre voilà, sur cette station spatiale. Rétrofuturiste et voilà, maintenant c'est chez vous et il se passe des choses, mais à la base c'est vraiment ça la fantaisie.
Et du coup je trouve que ce que tu disais plutôt Gaëtan, ça marche d'autant mieux dans le sens où tout de suite on est ébloui par l'esthétique et du coup ce côté un peu choc quand on va gratter le vernis et se rendre compte de finalement ce qu'il y a en dessous, ça marche vraiment très 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 bien quoi.
Bah, la meilleure chose qui pourrait arriver pour nous, et je crois que c'était un peu une idée du début de projet, c'était de se dire si un jour il y a quelqu'un qui se dit mais en fait c'est pas parce que les choses sont jolies que ça veut dire que ça se passe bien et que les gens commencent à se poser un peu des questions sur, j'imagine des gens apolitisés, enfin bref, ce genre de personnes qui se posent des questions sur leur vie et se disent mais c'est pas parce que tout a l'air de bien se passer que tout va bien. Je pense que c'est vraiment on aura gagné. Enfin, je pense que c'était vraiment un peu l'idée à la toute de genèse, cette idée un peu de dire permettre aux gens de critiquer les choses même si visuellement elles ont l'air bien. Et c'était un peu ça le truc du jeu. Et c'est pour ça qu'on en a mis plein la vue en termes de graphisme. Les couleurs, c'est des couleurs funky qui sont ultra contrastes. Enfin, il y a beaucoup de contrastes, beaucoup de couleurs. On est vraiment sur utopique.
Il y avait, vraiment cette volonté, mais même dans l'histoire, du coup, ça se retrouve. Nous, on avait mis la barre en disant, en fait, il faut que il y a des choses horribles hein, qui vont être qui se passent dans Tantrim, mais on veut jamais les montrer. On veut jamais être dans une dystopie graphique et être en mode voilà, juste regarder comment c'est horrible. En fait, il faut que les gens arrivent à intellectualiser ça et dire ok, je peux pas le voir, mais je dois le comprendre. Du coup, quelles sont les actions que je prends par rapport à ça? Et c'est un reflet direct de ce qui se passe aujourd'hui. En disant, bah, nous voilà, dans nos pays occidentaux, la situation où on est, mais il y a le réchauffement climatique, il y a des guerres. Et on les voit pas, elles sont pas là tout de suite. Maintenant, on a des vidéos, mais il y a plein de choses qui se voient qui sont pas documentées. Et en fait, pourtant, on le sait. Et est-ce qu'on prend des actions là-dessus ou pas? C'est un peu là qu'on essaie un peu d'aller. On essaie de faire réagir nos joueurs et nos joueuses en leur disant voilà, ça c'est Stardream, mais qu'est-ce qui se passe
sans
dans notre vie?
Moralisateur, bien sûr, parce que bah, quelles actions on fait, nous trois, contre la guerre et tout? Sûrement quelques-unes, mais pas non plus énormément. Mais c'est plus pour mettre les gens dans une situation.
C'est ça.
Mais on n'est pas moralisateur, on n'est pas là pour dire qu'une façon de penser est moins bien qu'une autre, même si bien évidemment, on a nos idéologies qui transpirent du jeu, c'est obligé, c'est nous qui le créons. Mais voilà, on n'est pas dans une écriture à dire à des gens.
J'avais juste une petite question par rapport à parce que tout ce que vous citez, et également même visuellement, il y a quelque chose dans cette qui me rappelle un autre jeu que vous connaissez peut-être, American Arcadia.
Bien sûr.
Voilà. Et je me demandais à quel point c'était quelque chose qui... visuellement, on est un petit peu dans cet esprit, dans ce côté un peu rétro-futuriste, parce qu'on s'est censé nous présenter des années 60 futurisées, mais qui ne correspondent pas finalement du tout à la réalité, qui est un monde à la Truman Show, en fait. Donc c'est un petit peu ça que ça m'a fait penser un peu à ça.
Et juste en poussant un petit peu la question, est-ce qu'il y a des jeux, en fait, qui vous ont poussé à faire ce jeu-là?
J'ai débuté ma question, mais ça va aller sur Théo. Je crois qu'American Arcadia est sorti après qu'on ait eu l'idée.
Alors,
je suis pas sûr.
Il n'est pas sorti après, mais nous on l'a découvert après.
D'accord. C'est pas une source d'inspiration, mais c'est.
Non, okay, tiens, mes parents, vraiment, au moment où on l'a vu, on a dit genre, waouh,
c'est Stardream. Et voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, American Gala, c'est fait par Out of the Blue, qui est un truc que j'aime beaucoup parce que Call of the Sea, ça avait déjà été un jeu qui m'avait inspiré. Et j'ai eu la chance de rencontrer leur équipe. Donc voilà, Tatiana aussi de Out of the Blue, voilà, une équipe espagnole qui sont adorables et qui là ont sorti leur nouveau jeu d'ailleurs très récemment, la suite de Call of the Sea.
C'est Call of the Enders, c'est ça ?
Exactement. Ouais. Mais moi, je pense que le jeu, en tout cas en termes de game design, qui a vraiment été une grosse inspiration pour moi, c'est Road 96.
Okay. Ouais, ça se ressent notamment dans la dernière partie du jeu.
De la démo.
La dernière partie de la démo, je trouve, où les actions s'enchaînent et il faut vite prendre des décisions, etc. Plus que dans le début, qui est plus. On essaye enquête, de mettre en enquête et tout ça. C'est dans une fois, en fait, que. On sort de chez Judy, c'est ça ?
Ouais.
Que, voilà, pour moi, on est très sur du Road 96.
Ouais. Bah, en fait, ouais, je pense que. Même moi, la genèse, ça a été genre. J'adore Road 96, mais ma frustration, c'est que la fantasy, c'est du coup un road movie où du coup on part en road trip. Mais on est toujours bloqué dans des petites scénettes avec des murs invisibles.
Ouais, ouais.
Et en fait, juste, on peut vraiment se déplacer sur voilà, une cinquantaine de mètres. Tu vois.
Ouais.
Et ça, j'avais tendance, genre, c'est horrible parce que moi, là, ça y est, je vois la route, j'ai envie de marcher, j'ai envie de faire des choses. Et du coup, on s'est dit, mais comment on peut reproduire ça ? Et c'est là qu'est venue, entre autres, pour d'autres raisons aussi, mais la voiture qui permet vraiment d'explorer à l'échelle 1-1 cette station et de vraiment pouvoir se rendre partout où est-ce qu'on peut, on peut voir quoi, et se déplacer, découvrir les différents environnements. Donc qu'est-ce que ces environnements vont raconter aussi du monde et de l'histoire. Voilà, ça a été un peu ça la genèse. Et je ne peux pas non plus évidemment m'empêcher de citer Cloudpunk qui est aussi du coup donc eux dans une esthétique plutôt cyberpunk avec des voxels, mais qui aussi était une grande inspiration sur la liberté que pouvait ouvrir aussi la voiture.
Je pense
que c'est ça aussi qui m'a conforté dans l'idée que c'est un personnage intéressant de jouer une chauffeuse de taxi.
J'ai envie de citer NeoCab du coup.
Ouais, NeoCab aussi. Ouais.
NeoCab, excellent jeu. Bon, si on cite du coup NeoCab, on est obligé de citer.
Le jeu des Français.
Le jeu des Français. NeoCab
aussi.
Qui s'appelle.
Non, NeoCab, il n'est pas français. Le jeu avec où tu peux avoir un chat, même comme.
Laurent Victorino, exactement.
Ah,
il s'appelle Nightcall.
Nightcall, voilà.
Exactement. Où là, c'est plus une sorte de visual novel, mais c'est aussi, encore une fois, c'est la preuve que vraiment, une chauffeuse de taxi, ou une chauffeuse de taxi, c'est un rôle super intéressant, narrativement.
Oui, puis du coup, Stardream, c'est un monde ouvert, mais limité, puisque limité à la station, quoi. Mais du coup, c'est un monde que tu peux arpenter avec la voiture.
Ouais. Nous, on appelle ça du coup un semi-open world, dans la notion où on peut effectivement se déplacer librement avec la voiture dans le monde, mais toujours en suivant la route. Et par contre, c'est quand on se gare qu'on peut passer à pied. Et là, on peut, à la manière d'un Road 96, explorer des petites zones d'enquête. Voilà, donc on peut pas explorer, on n'est pas libre comme dans un vrai open world, mais par contre on a une liberté relative, donc ça s'appelle un semi-open world.
Effectivement, en plus on retrouve la dynamique qui était très bonne déjà dans Cloudpunk, qui fait que on a beau en fait conduire, il y a toujours les dialogues qui s'enclenchent avec des fois des arcs narratifs qui vont dépendre pas seulement de ce qui se passe dans les dialogues, mais de là où tu vas avec ton véhicule.
Et ça marche trop bien. C'est vraiment pour ça qu'on a à peu près la même feature dans le jeu, puisqu'évidemment, genre, ta voiture ne sert pas qu'à dépasser, mais elle sert aussi à faire des choix. Et c'est aussi un moyen plus immersif de dire, voilà, c'est pas que des interfaces où je fais des choix, mais en fait, en me rendant physiquement ici ou là, l'histoire va être différente.
Du coup, vous avez peut-être vu Ithaca avec un petit intérêt.
Ah bah évidemment, mais là
j'ai mangé le playtest hier. J'adore.
Tu parles du jeu de Florent Morin de
Pixelhunt.
Bon, en même temps, Florent Morin, Pixelhunt.
Oui.
Voilà. C'est les copains. on embrasse vraiment très fort Florent et toute l'équipe de The Pixelhunt.
Ouais.
Là, il est en train littéralement de faire un road trip. Lui aussi, jusqu'à Ithaca.
Et le scénar a l'air aussi bien, enfin, j'allais pas dire alambiqué, mais il va prendre au trip. Mais bon, les gens qui ont fait The Wreck,
on a l'habitude.
C'est ça.
Ou Wednesday, ou enfin, plein de choses. Voilà.
Moi, j'aimerais que vous nous parliez plus du studio et de votre travail d'équipe et de comment vous envisagez le travail d'équipe et la production d'un jeu vidéo en sein de Rebel Pixel.
Carrément, je pense que je vais un peu laisser la parole, comme j'ai pas mal parlé sur Stardream.
Sauf si personne ne veut l'apprendre.
Ouais, je vais commencer déjà. Pas de chance pour Emma, parce que du coup, elle est avec les deux patrons de Stardream. Et oui, il y a des situations de pouvoir, malheureusement. Donc, je ne sais pas si elle va pouvoir tout dire. Mais tu peux tout dire, Emma. tu peux dire à quel point on est horrible. Mais,
merci de désamorcer ça de cette manière. C'est génial, j'adore.
Non, mais voilà, pour que tout le monde chez vous, dans votre voiture, sachiez que voilà quoi.
Dans votre voiture, s'il y a des gens qui écoutent, si vous êtes en train d'écouter depuis votre voiture, bah non, je veux dire klaxonner, mais.
Bah non.
Faites quelque chose d'illégal.
Faites des bulles.
Maintenant.
On va avoir des problèmes.
Ouais, moi j'ai été. Moi j'avoue, j'ai été plus distant sur ces questions de choix. Bon, bien évidemment, vu que je suis patron de la boîte, bah j'ai. Alors, mes actions ont une conséquence, on va dire. Du coup, je vais quand même laisser la main à Théo, qui est quand même quelqu'un de plus, j'ai oublié, militant, qui était plus militant que moi à la base.
Bah, en gros, le constat il est assez simple. Hein, en fait, c'est que du coup, on est tous travailleuses de l'industrie du jeu vidéo. Donc, on a déjà tous travaillé dans des studios avant de bosser à Herbal Pixel.
D'accord.
Et on a tous.
C'est pas
subi...
votre première danse, ouais.
Ouais, franchement, on a toujours eu des expériences qui ont été plus ou moins dures, des fois très dures. Et on a subi des choses qui sont. Qu'on veut juste pas reproduire, on veut proposer autre chose de différent. Et du coup, vraiment. Moi, j'ai un peu monté Herbal Pixel en me disant c'est essentiel qu'on ait la lutte qui continue avec les syndicats, le travail qui est fait notamment au STJV, avec la CGT, avec d'autres. Voilà, tout le travail d'opposition qui est essentiel. Et d'un autre côté, proposer du coup, j'ai pas envie de dire une alternative parce que ça serait très ambitieux, mais en tout cas, dire on veut faire les choses à notre manière, on veut essayer de le faire mieux. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut en tout cas espérer. Et la volonté, ça a été de dire, en tout cas, ce qui est beaucoup reproché aux structures, et moi aussi ce que j'ai vu, c'est que la direction créative est vraiment accaparée par la direction, qui laisse pas vraiment les travailleurs travailleuses, alors que c'est eux les mieux placés pour prendre des décisions, faire prendre des choix concrets sur le jeu. Le manque de transparence. Et moi, c'était un peu ces jalons-là qui m'ont dit, on va essayer de faire un jeu où globalement, on tend vers une horizontalité qu'on n'a pas, on va pas se mentir, à la fin, comme dit Gaëtan, il reste quand même des jeux de pouvoir, donc c'est pas 100% total, on n'est pas une scope, mais en tout cas, on a régulièrement, tous les mois, en tout cas, on a une réunion mensuelle, tous les jours, on a un daily, chaque semaine, on a un string planning qu'on a organisé collectivement, et je dirais que chaque personne est sur son pôle de prédilection, un peu un veto, voilà, sur comment les choses doivent se faire. Et de toute façon, que ce soit pour l'histoire ou le monde, ça a toujours été des choses qui ont toujours été discutées. Il n'y a pas juste une équipe narration qui fait son truc et qui dit voilà, ça c'est l'histoire, maintenant vous devez faire comme ça. Donc beaucoup de coactivation, ça demande beaucoup de temps de réunion et pas mal de transparence sur qu'est-ce qui se passe dans la boîte, c'est quoi les comptes, c'est quoi les choses et même sur la manière dont on a de travailler, on aime bien prendre des temps aussi pour parler de nous. Donc comment ça va ? Mais au-delà de la boîte, déjà personnellement, c'est aussi des sujets de prendre soin des uns des autres. Ça a permis de remonter plein de choses qui étaient super intéressantes et de démorcer des situations qui allaient, je pense, devenir des situations problématiques.
Emma, tu es d'accord avec tes patrons sur leur vision de l'égalité ?
Cligne des yeux si tu veux.
Alors, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Théo. Moi, ma position, c'est qu'effectivement, quand je suis arrivé dans le projet, on a eu un peu cette discussion initiale où on s'est dit, ok, est-ce qu'on travaille ensemble, comment ça fonctionne ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu un peu, un peu une promesse sur, ok, voilà, c'est quoi les idéaux qu'on a envie de faire fonctionner dans la manière dont on travaille. Et du coup, effectivement, c'est vrai que petit à petit, on a pu se rendre compte qu'il y avait des choses qui finalement marchaient pas.
Ouais.
Et bon. Les éléments de détail, on va pas en parler à la radio, voilà, c'est le truc qui nous regarde entre nous. Mais c'est arrivé plusieurs fois qu'on se rend compte qu'on n'était pas d'accord sur les trucs. Mmh. Que moi, du coup, en tant que personne qui travaille mais qui suis pas patronne de la boîte, j'arrive avec des choses en disant mais là, ça me convient pas la façon dont tel truc s'est passé. Bon, l'avantage, c'est que on est dans un cadre déjà où on peut en parler. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les boîtes.
Ouais, ouais.
Après, c'est vrai que c'est des frustrations que j'ai ressenties plusieurs fois, de sentir qu'il y a tel sujet où je me dis, mais en fait, ça va dans le sens de mes valeurs. J'avais l'impression que ça allait dans le sens des valeurs qu'on partageait, mais en fait, ce que Théo et Gaëtan vont me répondre, c'est oui, on est d'accord, mais en fait, on n'a pas les moyens. Donc, si on veut que le jeu, existe, en fait, on ne peut pas garder ça. Donc, bon. de toute façon, c'est pas fini. Là, le jeu, on a même pas encore commencé la prod. Donc, je pense l'histoire de comment est-ce que ce jeu va être développé, elle est encore à écrire. Mmh. Mais toujours est-il que, enfin, pour moi, la leçon pour l'instant, c'est que en fait, bah, c'est super difficile d'appliquer vraiment réellement ces valeurs, et ça demande vraiment des sacrifices, et c'est super difficile de les d'estimer à l'avance les sacrifices que vont impliquer le fait de tenir spécifiquement à des valeurs. Et c'est facile à dire pour moi, puisque bah, c'est pas moi qui assume la responsabilité de la décision, c'est pas moi qui prends la décision sur à part sur les aspects techniques, mais voilà, sur les aspects, la plupart des aspects globaux, c'est vous deux qui avez la décision finale. Donc, où est-ce que je vais en disant tout ça? On essaye effectivement, et je m'inclus dans ce on, de faire différemment de ce qu'on a pu connaître et de ce qu'on a pu ne pas aimer dans d'autres boîtes, et de ce qu'on a pu voir aussi de la part d'autres travailleuses du jeu vidéo dans nos cercles qui ont beaucoup souffert de situations qui ont été vraiment au désavantage des travailleuses, comme dans plein de situations. On a cette volonté de faire différemment, et j'espère qu'on va réussir à se donner les moyens de faire un peu plus différemment que tout le monde qui veut faire différemment, en fait. Parce que je pense que tout le monde veut faire un peu différemment, en réalité.
Oui, parce que c'est un peu facile de dire on veut faire différemment, derrière, c'est toujours les actes qui prennent. Et oui, de l'autre côté, bah, c'est pour ça on n'a pas été tout blanc, comme disait Théo. Enfin, voilà, finalement, il y a eu beaucoup de trucs sur l'argent, sur la difficulté que c'est de monter une boîte, en fait, de payer des gens, de tout ça.
Bah, de toute façon, il y a toujours le moment où tu te retrouves confronté à la réalité et te dire bon bah voilà, on voulait faire les choses comme ci comme ça, et puis finalement bah, c'est pas si simple, et puis en fait quoi qu'il arrive, il y a toujours des concessions à faire à des moments, parce que voilà, il y a pas les moyens de faire comme on voulait, ou alors enfin il y a toujours tout un tas de choses qui arrivent finalement qu'on n'avait pas forcément anticipé ou quoi. Enfin, du coup c'est extrêmement intéressant, et je pense que le plus important, c'est que tant que vous êtes à l'écoute des uns et des autres et que vous ne perdez pas de ça, il y a moyen que déjà ce soit beaucoup plus un cadre de travail beaucoup plus agréable que n'importe quelle boîte plus classique. Moi je sais qu'après dans l'associatif, j'ai expérimenté pas mal de systèmes de collaboration différents, et notamment des trucs comme le collégial et tout, et tout le monde était en mode ouais, ça va être génial, et puis en fait confronté à la réalité, bah, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est juste, je pense que ça va être beaucoup d'itérations aussi de votre part, et pour construire tout ça, et comme vous l'avez dit, c'est en cours d'écriture du coup, mais c'est hyper intéressant.
Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui on est, l'équipe, ça reste un groupe d'amis où on se connaissait pour la plupart d'avant, ou alors on a créé des liens en tout cas qui sont au-delà de juste des liens pro, mais l'équipe va avoir besoin de s'agrandir pour l'intégralité de la prod, et du coup forcément ça va changer aussi beaucoup de choses dans les dynamiques que ça implique, quoi.
Et puis juste d'un point de vue plus personnel, mais moi j'ai pas vraiment confiance aux personnes individuelles pour garder, on va dire, une bonne vision et des bonnes valeurs. Je suis plutôt pessimiste sur ce côté de l'être humain, et du coup j'espère, mais ça aussi c'est un travail, c'est compliqué de demander ça à d'autres personnes que nous en fait, mais j'espère qu'il va y avoir des contre-pouvoirs qui vont se mettre en place, des CSE, non c'est ça, CSE, ça se dit,
ouais. Sections syndicales aussi,
des sections syndicales, ce genre de choses, parce que derrière en fait, je crois en aucune personne qui va pouvoir faire ça bien, et il faut mettre en place des cadres légaux qui sont
pour échanger
aux avantages d'autres personnes,
pour échanger, même sans forcément être échanger. Contre ou être simplement en opposition, mais ouais,
c'est quand même très pessimiste. Il y a tant de très bons leaders éclairés dans le jeu vidéo pour faire.
Il y en a plein, les
gens d'honneur.
Il y en a plein, les gens d'honneur.
Il y en a plein,
le Summer Game Fest. Oh là là, ça n'arrête pas. Il y a eu pas mal de communication autour du jeu ces derniers temps, entre la présence au Galaxy Fest, si je dis pas de bêtises.
Galaxy Showcase,
la présence à la GFrench Direct, la mise en place donc de la démo, et beaucoup de retours qu'on a pu voir notamment chez des streamers assez en vue. Quelle est pour vous la marche à suivre pour la suite, tout simplement?
En fait, juste avant de répondre, est-ce qu'on a présenté où on en était du truc, le fait de dire qu'il y a une démo qui est sortie et tout? Je crois pas.
Bah après, c'est vrai que comme on en a déjà parlé dans l'émission, du coup, on partait du principe que ça coulait de source, mais pas du tout.
Tu peux peut-être quand même faire un petit récap.
Oui.
Et ben, Ok, alors je t'en là, prie. On a une démo. Donc en fait, le jeu, on parle d'un jeu depuis tout à l'heure. Le jeu, donc c'est Star Dream. Le jeu,
il... Ça fait une heure d'émission.
La production du jeu en tant que tel n'a pas commencé, mais on a fait une grosse phase de pré-prod qui a duré plus d'un an, à l'issue duquel, de laquelle on a sorti une démo de 30 à 40 minutes, qui est disponible depuis le 16 ou 17 avril, sur Steam, qui s'appelle Star Dream Prologue. C'est gratuit. Vous pouvez y jouer là maintenant. C'est entièrement doublé en anglais, mais il y a des sous-titres en anglais et en français.
Exactement.
Et c'est super. N'hésitez pas à mettre en wishlist, à mettre des reviews, tout ça, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas, si vous jouez, à utiliser le raccourci clavier secret, qui est une exclusivité Radio Canu. On l'a dit à personne d'autre jusqu'à présent. Alt plus B, voilà.
Okay.
C'est serré.
Okay.
Faut que je relance la démo.
Oui, il faut relancer la démo. Si vous avez déjà joué à la démo, relancez-la.
Okay.
Et voilà, en fait.
C'est ce que je fais en rentrant, moi.
Ah bah ouais,
et on peut rajouter en plus que ce qui est assez cool, c'est que tant que c'est un prologue, vraiment la fin du prologue va vous amener au tout début du jeu complet. Donc bon, ça se passe avant le début du jeu complet.
Et on joue pas le même personnage. Prologue, on joue Ramona Powell, et dans le jeu complet, on joue Darlene. Donc c'est deux chauffeuses de taxi. Mais du coup, forcément, Ramona Powell que vous allez jouer dans le jeu, vous allez en entendre parler. Enfin, que vous avez joué dans le prologue, vous allez en entendre parler dans le jeu.
Voilà, tout est connecté. Voilà,
incroyable.
Et donc là, ouais, vous en êtes à ce stade. Après, du coup, c'est quoi la suite? Après cette démo, vous avez quoi comme... Enfin, j'essaye de reprendre la question de Xavier, mais je sais pas ce qu'il avait en tête.
En fait, maintenant que, en gros, il y a la démo, j'imagine que votre ambition est d'en faire un jeu complet. Parce que vu que vous n'avez pas commencé la prod, j'imagine qu'il va falloir voir comment commencer cette prod. Qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer cette prod? Est-ce que vous avez commencé cette prod? Voilà.
Bah, en gros, on peut parler un petit peu du coup. Comment on produit un jeu vidéo, mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'industrie du jeu vidéo, il s'est passé plein de choses. C'est toujours en crise, hein, depuis le Covid. Voilà, donc Covid, il y a eu beaucoup d'investissements dans le jeu vidéo parce que ça marche très bien. Les investisseurs se sont dit post-Covid, non mais ça va continuer comme ça, donc x4 par rapport à la normale. Évidemment, ils ont.
Bah non.
Voilà, c'était solide. Donc, du coup, c'est retombé au niveau d'avant. Et tout le monde a perdu beaucoup d'argent. Donc, du coup, l'argent aujourd'hui est compliqué à trouver. Et notamment dans les stratégies pour faire la promotion des jeux pendant longtemps. En tout cas, quand moi j'ai conceptualisé le jeu, j'ai commencé à le faire. La stratégie, c'était en fait, on n'annonçait pas les jeux. En fait, on les faisait du coup, on s'en appelle en shadow. Et on trouvait un deal avec un éditeur, en tout cas un financeur, qui lui va prendre la main sur le jeu et c'est lui qui va gérer l'annonce du jeu pour faire une annonce en grande pompe sur un grand événement, etc. Et ça, c'était vraiment la strat. Donc, globalement, si tu avais déjà annoncé ton jeu, les éditeurs ou les financiers n'aimaient pas trop. Pendant qu'on fait ça, en fait, changement de tambour, les gens disent on n'a plus d'argent, donc pour investir dans des projets dans lesquels on croit, c'est à vous-même d'annoncer vos jeux, et si vous faites des bonnes stats, peut-être qu'on daignera regarder ce que vous faites. Et du coup, on s'en est rendu compte après la Gamescom, globalement, la Gamescom 2025, où on a dit ok, en fait, il va falloir qu'on fasse nous-mêmes notre annonce, et du coup, c'est pour ça qu'on a du coup fait l'annonce au Galaxy Showcase World Premiere International, suivi un mois après de l'update française. Pour la communauté française, c'était important pour nous quand même, en tant qu'une équipe française, proposer le jeu quand même ici. Et là, les résultats sont au-delà de ce qu'on espérait. Plus de 100 reviews sur la démo, 99% de reviews positives, des réactions en stream qui sont, qui m'ont touché énormément. Les gens qui sont à fond, qui disent ce jeu c'est bon, je l'attends, je vais l'acheter day one, les devs, vous pouvez pas nous faire ça, il nous faut le jeu. Donc on sent qu'il y a une vraie volonté.
Un engouement
auquel j'espérais, mais pas à ce point-là. Donc là, on sait qu'on a quelque chose d'assez robuste. Mm-hmm. Et maintenant, on est du coup dans la phase de l'été, de négociation avec les éditeurs et les financiers, puisque maintenant, on a enfin les bons chiffres qui vont bien, et pour espérer de trouver du financement et normalement attaquer la production en septembre, et ce qui devrait nous mener à une sortie du jeu en 2027. Voilà. Okay. Donc là, on est un peu dans le tuyau un peu mou, maintenant qu'on a réussi à faire cette fameuse démo qui prouve le potentiel du jeu. Il nous reste un peu des négociations à faire. Et ça va être un peu tout le travail, notre travail à Gaëtan de cet été.
Star Dream chez Touquet. Vous l'avez entendu ici en premier. Je crois que Zelnik et adore le jeu.
Ah, de toute façon, il aura un petit peu de place après GTA 6.
Donc... Oui, après, il n'y aura plus rien à faire. Donc.
Tranquille.
Avant de terminer, je voulais juste finir par une question. Juste, qu'est-ce qui vous a chacun amené à faire des jeux vidéo? Parce que... Ouais, parce qu'au final, on parle de
meilleure question. Bah, ouais. 2 minutes.
Voilà, vous avez 2 minutes à vous partager à 3.
Voilà. Ah. Et on dépassera, évidemment.
Vas-y, je te laisse.
Ah, waouh. Qu'est-ce qui m'a amené à faire des jeux vidéo? En fait, moi, j'ai commencé à coder quand j'étais au collège sur Game Maker.
Okay.
Du coup, c'était déjà du jeu vidéo. Mais en fait, pendant longtemps, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études informatiques généralistes, il y avait plusieurs personnes dans ma promo qui rêvaient de faire des jeux vidéo. Moi, c'était pas spécialement mon rêve, en fait. Je savais pas trop vers où je voulais aller. Et en fait, je me suis retrouvé dans un studio où on a fait de la VR, pendant des années, et on a fait aussi du jeu vidéo. Et en fait, ça m'a plu. Je trouve que c'est, dans tout ce que j'ai touché en informatique, je pense que le seul truc que je connais qui est plus gratifiant que le jeu vidéo quand on code, c'est la robotique. Mais dans les deux cas, il y a ce truc de tu codes quelque chose et ça bouge, quoi.
Ouais.
Ça, bon, quand c'est un robot, c'est encore plus satisfaisant parce que ça bouge en vrai, mais sur du jeu vidéo, c'est,
ouais, ça prend vie.
Ça prend vie. Et surtout, et donc quand on a arrêté la boîte de VR, je me suis dit, tiens, j'ai envie de continuer dans le jeu vidéo. Les raisons pour lesquelles je suis dans le jeu vidéo, c'est que déjà, par rapport à juste être dans une boîte qui fait que du code, en fait, mes collègues, c'est des artistes. Et je travaille en permanence avec des game designers, des 3D artistes, des tech artistes et des personnes qui font de la narration aussi. Et c'est juste beaucoup plus intéressant, en fait. Quitte à être le métier le moins créatif du secteur, autant quand même avoir des interactions qui sont juste avec de la créativité partout, quoi. Et parce que, en fait, quitte à bosser pour le capitalisme, autant que ce soit pour quelque chose qui va produire du divertissement et, ouais, et mettre des étoiles dans les yeux de quelques personnes. Voilà.
Donc il vous reste 5 secondes chacun maintenant.
Je tiens juste à dire que Emma a été directrice d'acteur.
Non, ah oui, c'est moi qui ai fait la direction de jeu pour les voice actors. Ouais.
Oui, c'est direct.
On n'a pas parlé de ça, mais les doublages sont incroyables.
Les
doublages sont incroyables. Enfin, surtout pour une démo, surtout pour ce niveau, en fait, là où vous en êtes dans le projet. Incroyable.
Merci en partie à Emma, du coup.
Oui. Je suis metteuse en scène de théâtre à côté. Et du coup, c'était assez évident que c'est quelque chose que je pouvais faire.
Et la VF sera incroyable. Merci, Touquet, une fois de plus.
2 secondes, Théo.
Non, alors.
Moi, en fait, c'est assez marrant parce que du coup, c'est très clair pour moi et c'est un peu une anecdote. En gros, quand j'étais assez jeune, je pense que je devais avoir, je pense 7-8 ans, en fait, je joue déjà beaucoup aux jeux vidéo. Et en fait, j'accompagne mon père qui faisait du parachute. Et je l'accompagne parce qu'il va faire un saut. Et il arrive, il check un de ses potes et tout. Et il me dit, tu vois, lui, c'est un parapro. Et je dis, mais comment ça? c'est son métier. Et là, je dis, mais attends, c'est-à-dire que lui, il est payé pour sauter, mais toi, tu payes pour faire le saut. Il me dit exactement. Et là, dans ma tête, ça a brillé. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et ouais, je me dis, attends, mais il y a vraiment des gens, ce que mon père, il fait comme passion et comme plaisir et qu'il paye pour. En fait, les gens, ils sont payés pour ça. Je me dis, mais moi, c'est quoi que j'aime le plus dans la vie? Les jeux vidéo. Et notamment, créer des jeux, parce que je faisais déjà un peu des petits jeux sur Construct, mais très amateur. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me fait le plus kiffer. Je veux gagner de l'argent en faisant ça. Genre, on gagne pas d'argent. Par contre, qu'est-ce que je suis heureux de créer ces univers, ces mondes, et de pouvoir les laisser expérimenter, et que nos joueurs, nos joueuses puissent se balader dans et vivre des aventures. Donc, voilà pourquoi je fais des jeux vidéo.
Excellent.
Gaëtan?
Trop naze, moi. Désolé pour les gens qui vont écouter ça. Mais en gros, moi, je fais de la 3D depuis que j'ai 12 ans, 13 ans. D'ailleurs, shout out à Blender. Donnez à Blender.
Ouais. Blender,
oui. Logiciel open source, c'est mieux que gratuit en plus. Bref, ouais. Voilà. Donc, Blender qui a vraiment été ma vie.
Et donc, tu t'es mis à la 3D comme ça
Je me suis mis à la 3D comme ça. Et la question a dû se poser, est-ce que je bosse pour le cinéma d'animation ou est-ce que je bosse pour le jeu vidéo? Et en fait, je me suis rendu compte que je suis très impatient. Ça me saoule d'attendre 5 minutes qu'une image soit faite. Du coup, moi, je suis passé à l'industrie qui fait 60 images par seconde. Et voilà.
Ok, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire de la 3D, du coup?
Je sais pas. Franchement, je crois c'est un truc qui me passionne depuis que je suis gosse. Là, j'ai un peu pas vraiment de réponse, okay. Mais j'ai commencé en faisant des trucs stop motion avec des Playmobil et tout. Mais ouais, vraiment, la 3D, puis logiciel gratuit open source, quand j'étais gosse, j'étais dingue, quoi.
Ok.
Tu peux créer des trucs en 3D, ça, tu faisais des cubes, des cubes qui bougent. Donc voilà, c'est commencé comme ça.
Ok.
Et
merci beaucoup.
Merci Gaëtan, merci Théo, merci Emma.
Merci à vous.
À Radio Canu. Et merci à l'équipe du Nerf de la Guerre.
De la Game.
Nerf de la Game. On remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast et Radio Canu pour l'accès au studio. Merci Bettina. Merci Romain.
Merci à tous.
Je sais pas ce que vous faites la semaine prochaine. Moi, je vais me rendre sourd. Et puis, on se revoit après.
Tu vas crever de chaud au Hellfest.
C'est ça, exactement.
Des bisous tout le monde.
Salut.
Bonne soirée à tous.
Merci à tous.